Autour de vous, quelques bustes rappellent la mémoire de plusieurs médecins de Saint-Louis. Ernest Bazin, Achille Civat, Jean Darier, Louis Brock, Charles Layet, Édouard Janselme, qui tous enrichirent par leurs travaux le patrimoine intellectuel de la dermatologie. Bazin, médecin de Saint-Louis dans les années 1850-1860, développa une approche de la dermatologie fondée sur les relations privilégiées des maladies de la peau et de la pathologie générale. Il fit progresser le traitement de deux maladies très répandues à l'époque, la gale et les teignes, dont nous reparlerons dans quelques instants. Darier fut le dermatologue français le plus connu de la première moitié du XXe siècle. Achille Civat, élève de Darier, apporta des contributions déterminantes à l'histopathologie cutanée. Louis Brock fut un chef de service renommé à Saint-Louis au début du XXe siècle. Édouard Janselme, lui aussi renommé pour sa connaissance surtout des maladies tropicales, de la lèpre notamment, fut le troisième titulaire de la chaire de clinique des maladies cutanées et syphilitiques, successeur de Gaucher et d'Alfred Fournier, dont nous reparlerons dans quelques instants. Certains de ces bustes ont une autre particularité. Ils ont été sculptés non par un sculpteur professionnel, mais par un médecin de Saint-Louis, Raymond Sabourot. Outre une renommée internationale en mycologie, Sabourot avait en effet un réel talent de sculpteur qu'il mettait à profit pour réaliser des bustes, notamment de quelques-uns des médecins de Saint-Louis parmi ses amis. Si vous dirigez votre regard au-dessus de la statue de Saint-Louis, vous verrez le portrait d'Émile Vidal, qui fut chef de service à Saint-Louis dans les années 1880. Il eut un rôle déterminant dans la fondation de la Société française de dermatologie, société savante encore en activité aujourd'hui, fondée le 22 juin 1889, quelques jours avant l'inauguration du musée. À la gauche de ce tableau, vous pouvez voir le portrait d'un homme aux cheveux et aux favoris blancs, vêtu d'une chemise à col cassé et d'une redingote noire. Il s'agit de Charles Layet, chef de service à Saint-Louis dans les années 1870-1880, qui eut une influence déterminante dans la conception de la collection de moulages, que vous verrez dans quelques minutes. Outre cette contribution, Layet eut un rôle de premier plan dans une autre création originale à Saint-Louis, une école pour enfants atteints de teigne du cuir chevelu, on parlait alors de l'école des teigneux. Le souci de perfectionner le traitement des teignes en respectant l'obligation d'instruction scolaire imposée par la loi de Jules Ferry de 1882 fut à l'origine de la création d'une école pour enfants teigneux. Le procès-verbal du Conseil de surveillance de l'assistance publique, daté du 25 février 1886, indique que l'administration, dit ce procès-verbal, a eu la pensée, de concert avec M. le Dr Layet, de créer un service où elle s'efforcerait d'amener les enfants à l'heure même où ils devraient se rendre à l'école, de garder ces enfants, de les traiter et de ne les rendre le soir qu'au moment où les parents rentrent, c'est-à-dire en un mot, de créer un traitement auquel elle donnerait le nom de traitement externe à demi-pensionnat. Cette école des teigneux fonctionna à partir du 4 août 1886. Elle était installée dans les locaux de l'ancienne consultation externe, située à l'angle de la rue Bichat et de la rue de la Grange-Aubel, bâtiment toujours visible, où se trouve aujourd'hui le centre des maladies sexuellement transmissibles. L'école pour enfants teigneux prit en 1894 le nom d'école Layet, en hommage à son fondateur. La découverte des médicaments antifongiques simplifia et diminua la durée de traitement des teignes et amena la fermeture de l'école Layet au début des années 1950. Empruntez maintenant l'escalier qui conduit au musée et à la bibliothèque. Tout au long de l'escalier, vous verrez les portraits de médecins chefs de service à Saint-Louis. Nous ferons quelques haltes. Nous nous arrêterons devant le portrait de Jean-Louis Alibert, dont la présence à Saint-Louis nous ramène aux premières années du XIXe siècle, période de transformation essentielle dans l'organisation des hôpitaux de Paris, et notamment d'une mesure révolutionnaire, la spécialisation de l'hôpital Saint-Louis.